Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où s'il n'y a pas de bugs, c'est pas nous autres, c'est des Body Snatchers!
Yay!
Alors, merci tout le monde de vous être déplacés en aussi grand nombre, d'aussi loin que le lac Saint-Jean. Êtes-vous arrivés, les gens du lac Saint-Jean?
Oh mon Dieu! Hey, il y a une chance sur deux que ça fonctionne, ça. Merci
d'être... Mon Dieu, merci! Merci tellement! Alors, merci de vous être déplacés aujourd'hui dans Hochelag pour le Festipod. Alors, aujourd'hui, on a des histoires de crimes, des histoires de District 31. Inquiétez-vous pas, on n'est pas en chicane, on nous a juste dit que c'était meilleur pour le cadrage. Mm-hmm. Et aussi, on a de la merch, si vous voulez venir jaser avec nous en arrière, ça va nous faire plaisir de vous raconter nos vies.
Tu t'es pas présentée, là?
Non. Moi, je suis Simon, et elle, c'est Garfunkel.
Oui.
Alors, je suis Audrey, je suis, of course, avec ma partenaire de toujours, Catherine. Comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va. Éric Bruno, encore cette année, n'est pas des nôtres. Il est en train de prendre un aller simple en dehors de mon cœur. Mais Éric Bruno n'est pas là, mais on a du café. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un don d'un auditeur, Christopher. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui, merci. C'est
de, ça aurait été drôle par...
Ça aurait été drôle. Alors, ça provient du Java Roasters de Toronto. C'est le café qui s'appelle Daniel Fonseca. Alors, il a des notes de baie, de fruits confits et de mousse au chocolat.
Le baie.
Le baie.
D'accord.
Alors, si vous avez les cafés sucrés, on vous le recommande. Ça vient avec le Roasters Pack, qui est un service de livraison de café mensuel. Si ça vous intéresse, c'est vraiment le fun d'avoir du café dans ta boîte à mal.
Jamais besoin de sortir de chez vous?
Eh non.
Pyjama pour toujours.
Alors, on a fait nos jokes d'Éric Bruno, on a fait nos jokes de café.
Oui.
Partner.
T'es-tu stressé, partner?
Non, je sais pas quoi tu parles.
Non, mais alors, ça paraît pas. T'avais oublié de dire ton nom. Oui. T'avais-tu d'autres choses à dire?
Ben, je sais pas, je m'appelle Audrey, j'ai tout dit.
Ben, c'est ça. Moi, je voulais dire qu'on avait de la marchandise à vendre en avance. Si ça vous tente d'aller nous rencontrer tantôt, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Puis on vend des belles tasses et des beaux sacs.
Et il y a 20% sur notre boutique Threadless,
oui,
si ça vous intéresse.
Car nous sommes des hashtags girlboss.
Voilà. Fait que là,
donc, oui.
T'es-tu prête,
oui,
à mettre un peu de crime dans tous ces cafés?
Oui.
Yes, sir.
Oui, absolument. C'est moi qui commence aujourd'hui. C'est moi qui n'a pas parti mon chronomètre pour être sûr que je ne parle pas pendant 15 ans. Attendez, ça va prendre une seconde.
Je prends le pouls de la salle puis je pense qu'il n'y a personne qui va chialer.
Mais déjà qu'on est en retard avec les problèmes techniques. Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous conter une vieille histoire de crime. Un cas très méconnu qui aurait pu complètement changer la destinée du Québec et accessoirement celle des ponts qui relient Montréal à la rive sud.
Oh non!
J'ai nommé la fois Yousque Samuel de Champlain a failli mourir d'un assassinat mortel.
Parce que t'es rendue notre experte en assassinat politique.
En effet, c'est pour ça que je porte un chandail à l'effigie de Paul Rose.
Attention, la GRC s'en vient.
Oui, aussi. Donc, mes sources, parce que j'ai pas juste inventé ça, bien sûr, c'est une vraie histoire vraie, de la vraie fois, parce que Samuel de Champlain a vraiment failli mourir. Mes sources, un article de Radio-Canada, un article du Devoir et un article d'un site web obscur intitulé biographiepasde.ca.
Ça coûte trop cher.
Biographie. Oh! Alors, est-ce que tu es prête à mettre un peu d'assassinat politique dans ton café?
Yes, sir!
Let's go! OK. Alors, notre histoire se déroule en juillet 1608.
Ça fait longtemps.
Ça fait un bout de temps. Samuel de Champlain, grand explorateur français dont vous avez sans doute jamais entendu parler, c'est certain, et aussi usurpateur de territoires autochtones, vient tout juste de fonder la ville de Québec.
Quelle blague controversée. Quelle blague controversée.
Moi, c'est juste ça, des blagues controversées.
C'est juste
ça que je fais. C'est juste pour ça que j'ai parti un podcast, pour faire des blagues controversées. Alors, vient tout juste de fonder la ville de Québec en 1608. Si vous avez passé votre cours d'histoire secondaire 4, vous le savez, ça! Voilà. Et c'est là qu'on trouve le Château Frontenac.
Hein?
Hein? J'écris le restaurant, le Colisée Pepsi. Donc,
je suis pas sûre que le Colisée Pepsi.
Bon, voilà. Et aussi le pont Pierre-Laporte, nommé en l'honneur de...
d'un monsieur qui est pas mort là, mais pas en tout.
Bon. Et là, puisque ce n'est pas un cas bien long, on a le temps de faire de la biographie.
Yes, sir.
Ben oui, parce que vous l'aurez compris, je veux dire, il n'est pas mort, là, Samuel de Champlain. Il est mort plus tard, parce que c'est 1608, je ne sais pas rendu aujourd'hui. Mais il n'était pas mort à ce moment-là, c'est une tentative d'assassinat. Donc, ce n'est pas très long, on peut parler un peu de sa vie. Alors, voici votre cours d'histoire secondaire 4 en accéléré. Samuel de Champlain est né à Rouage, dans le royaume de la France, quelque part entre 1567 et 1574, on ne sait pas. Peut-être baptisé en 1574 selon Wikipédia, on le sait pas. Et il est mort à Québec le jour de Noël 1653.
Et ça te scrape tes vacances.
C'est plate. C'est comme mourir avant tes vacances. C'est plate, ça.
Tu sais, quand c'était vraiment le temps. Là.
Mais là, il n'est pas encore mort. On est en 1608, je vous le rappelle. Donc, voici sa biographie, ses faits d'armes jusqu'à maintenant. Il a fait une formation en explorateur, ce qui me semble être une vocation vraiment cool.
Il est allé à l'Université des explorateurs, il a eu son diplôme.
Oui, c'est ça. C'est comme le HEC, mais des explorateurs.
Avec des chapeaux d'Indiana Jones.
Oui, aussi. Et je vous dis donc que c'est une vocation qui pourrait être bien cool si tu respectais les populations autochtones. Hein?
Bon. Oh my God.
Et ensuite, il est devenu soldat, Samuel de Champlain, en Bretagne. Et ensuite, explorateur des colonies espagnoles, entre guillemets, et tout à coup, fondateur de l'Acadie. Ça n'existait pas avant qu'ils mettent les pieds là-bas.
J'ai décidé que ça s'appelait l'Acadie.
L'Acadie, en 1606. Et là, après ça, fondateur de la ville de Québec, qui n'existait pas avant qu'ils mettent les pieds là, en 1608. Alors, je te dis que la vie est belle quand t'es le roi du monde.
Dans le old-timey time.
Oui, dans les old-timey time, quand t'es le roi du monde, comme les rois du monde dans la tour de... Oui,
de Roméo et Juliette.
T'as compris ma joke, voilà. Oui. Alors, en cette belle matinée de juillet 1608...
Il fait beau, il fait chaud.
Il fait beau, il fait chaud. Et Samy supervise l'établissement des jardins adjacents à sa résidence.
Il dit à ses plantes de ne pas bouger.
Bouge pas. Là, je veux une fontaine là-bas, puis une petite haie là-bas.
Touche pas à mon basilic.
Un petit géranium. Et là, il est approché par un de ses lieutenants, Guillaume le Têtu de Le Havre.
Guillaume le Têtu.
Ben, c'était le Têtu, mais tu sais, c'est vieux français. Guillaume le Têtu de Le Havre.
Guillaume, mot du caractère de marde.
Le Têtu, dit le capitaine le Têtu. Bon, voilà. Donc, c'est un de ses bros marins, Samuel de Champlain, qui était avec lui depuis... maintes années. Non, mais depuis au moins 1606 avec l'Acadie, là, c'est ça. Ils sont comme les cinq doigts de la main dans la toune de Mixmania. Alors, le capitaine...
C'est toute une playlist aujourd'hui.
Je sais les références. Alors, le capitaine, le Têtu, lui dit, « Samy, veux-tu venir jaser avec moi? » On s'en va jaser dans le buisson là-bas. Puis là, il l'entraîne à part. Mais c'est pas pour lui conter des jokes grivoises, c'est plutôt pour lui dire
qu'il vient. C'est pour lui donner des becs.
Même pas! Ouais. Voyons donc. Ça aussi, c'est controversé. On est en 1608.
Queerbaiting.
Non. Bon. Donc, il s'en va dans le buisson pour lui apprendre qu'il vient d'apprendre une histoire terrible.
Oh non.
Qui vient de lui être révélée terriblement.
Oh non.
Mm-hmm. En effet, un serrurier du nom d'Antoine Nantel vient de confier au capitaine de Têtu l'existence d'un complot épouvantable pour attenter à la vie de notre cher Samuel de Champlain.
Ah, ben non!
Oui!
C'est qui a fait?
Mais non! Mais je sais pas! Jusqu'à date, il est irréprochable.
Calvaire que le monde est violent.
Non, je sais bien. Alors, on voulait d'abord le tuer en lui tirant une balle dans la tête, mais finalement, le choix de la méthode d'assassinat s'est arrêté sur l'idée de lancer une fausse alerte au milieu de la nuit. Et puis là, quand il sort de sa chambre, au feu, puis il sort, le poignarder à mort au milieu de la pagaille.
Mais il me semble qu'une balle dans la tête, ça salit moins.
Oui.
C'est plus rapide.
Ben, je sais pas, je n'étais pas dans le complot, là, fait que moi, j'aurais peut-être pas voté pour ça. Fait que c'est le complot qui est révélé au capitaine de Têtu. Alors, selon le livre Nos Racines, voici ce que Têtu aurait répondu à Nantel. Mon ami, vous avez bien fait de découvrir un dessein si pernicieux et vous montrer que vous êtes un homme de bien et conduit du Saint-Esprit. Mais ces choses ne peuvent se passer sans que le sieur de Champlain le sache pour y remédier, et je vous promets de faire tant envers lui qu'il vous pardonnera à vous et aux autres.
Fait que tu sais, là, c'est ça, faute avouée, ta moitié pardonnée.
Fait que,
comme tu voulais me tuer, mais peut-être qu'on va te pardonner parce que tu me l'as dit, puis tu le feras pas.
J'apprécie ton honnêteté.
Ben oui, exactement.
Voilà.
Il a donné le bâton de parole.
C'est bon, bien
alors, le capitaine Têtu est allé stouler Nanterre à Samuel de Champlain, comme on sait. Mais là, pourquoi voudrait-on tuer Samuel de Champlain, lui qui avait une si belle barbichette pointue?
Oui. Pourquoi?
Qui peut faire ça?
Comment qu'on va aller sur la rive sud, là? On va nager?
Oui, bon. Non, on va prendre le pont-tunnel. Alors, imaginez-vous donc que la Nouvelle-France était alors un endroit très, très recherché. Plusieurs nations se disputaient ces territoires comme s'il n'y avait pas déjà du monde qui vivait là. Tu sais, on le répète.
Ouais, alors, okay.
Pendant que Samuel de Champlain se faisait du fun à faire du landscaping dans son jardin, il y avait des bateaux, des navires qui étaient arrivés à Tadoussac. C'était les Basques et les Espagnols.
Oh!
Ils sont venus voir les baleines et aussi recruter du monde pour faire assassiner Samuel de Champlain pour y voler sa colonie.
Qui vient dans ma gang?
Yeah!
Ça va péter des yeux!
Alors, ils sont venus voler la colonie et piller les vivres et marchandises de la Nouvelle-France pour les ramener en Espagne.
C'est vraiment pas fin. Ils ont en masse de paella pour tout le monde.
Ben oui, je sais bien, mais ils n'étaient pas dans le mood pour partager. Fait que là, les maudits Espagnols et Basques ont recruté un serrurier qui voyageait avec Champlain. Un autre serrurier. Parce qu'on se rappelle que le premier qui a stoulé le complot était un serrurier. Donc, c'est tous des amis serruriers.
Il y avait une job dans ce temps-là.
Alors, les Espagnols et les Basques...
Puis zéro clé.
Oui, ce que je veux dire, il n'y avait rien, là. Ça servait à quoi d'ouvrir des portes? Fait que là, ils ont recruté un certain Jean Duval pour réaliser l'assassinat à leur place, parce que ça ne leur tentait pas de se salir les mains.
Travailleur autonome.
Duval, lui, c'était un Normand qui faisait partie de l'équipée de Samuel de Champlain depuis la fondation de Port-Royal en Acadie en 1606. Bon.
On s'en rappelle.
Fait que c'était lui aussi un des chums de Samuel de Champlain.
Calice.
Qui voulait le poignarder droit dans le dos.
Trouve-toi des meilleurs amis, Sam.
Ça n'a pas d'allure.
Hey.
Je sais. Alors, Jean Duval a donc entrepris de recruter du monde pour l'aider, parce que ça ne tenterait pas de le tuer tout seul non plus. Ce qu'il fit au nombre de quatre. Et la bande Duval a essayé de corrompre l'entourage de Samuel de Champlain, en allant même jusqu'à acheter le laquais de Samuel de Champlain pour mettre en place un assassinat politique.
Tout s'organise.
Alors, tout était désormais en place pour procéder à l'assassinat, mais là, tout à coup, Antoine Nantel, il y a eu des remords, fait qu'il est allé voir le capitaine Têtu.
Il y a eu des souris décédées.
Puis des remords, et puis là, il est allé voir le capitaine, puis le capitaine est allé stouler ça à Samuel de Champlain, puis là, tout à coup, il n'y a plus personne qui meurt, c'est plate. Mais là,
pas beaucoup de crimes dans notre café. Là.
Non, je sais. Mais que va faire notre vaillant explorateur maintenant? Qu'il est au
explorer
courant de ce complot.
Ailleurs.
Ben non, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Voyons donc, il y a du monde qui voulait le tuer. Alors, est-ce qu'il va confronter directement ces impies? Non. Il est beaucoup plus smart que ça.
Il va lui péter deux jambes.
Pas de suite.
OK.
Tout à l'heure.
Alors, au rack à Bessic.
Samuel de Champlain contacte...
Au rack à chaloupe.
Au rack à chaloupe à 4 heures, je t'attends. Alors, il contacte le capitaine d'un navire qui venait justement d'arriver près de Québec en provenance du Tadoussac et lui ordonne de jeter l'ancre non loin de Québec. Puis là, ensuite, Samuel de Champlain, qui était bien bon pour schémer des affaires, lui, qui complotait beaucoup, il invite Antoine Nantel, puis Jean Duval, puis les autres méchants à venir sur le bateau qui vient d'accoster pour aller savourer un bon petit verre de vin français à bord du navire.
Je dis pas non.
Avec la vue sur les baleines. Mais là, à peine la bouteille est-elle débouchée que bang! Les hommes de Champlain sortent et procèdent à l'arrestation de tout le monde. C'était même pas vrai!
Cheval de Troie.
C'était pas vrai! C'était comme le cheval de Troie, mais c'était le bateau de Tadoussac. Bon.
C'est le off-brand.
Dans ses écrits, Samuel de Champlain dit à propos de ce moment, et je cite, « Voilà mes galants bien étonnés! » Voilà!
Galant, tu perds ton temps!
Yeah! Et on fait la sauce. Ça te dit, ah ben, OK, parfait.
Surprise!
J'imagine qu'on ne boira pas un petit verre de vino à soir.
Je peux tuer.
Ils sont incarcérés et drettes sur le bateau, les méchants. C'est une façon de s'assurer qu'ils
la
vont
croisière
pas
s'amuse.
Se sauver et que la croisière s'amuse, effectivement, en attendant. Et puisque c'est le début de la Nouvelle-France, vous vous imaginez bien qu'il n'y avait pas encore de prison et de police comme Babine dans District 31. Non.
Il n'y avait pas de col roulé.
Il n'y avait pas non plus de système de justice parce que c'était comme... c'était un no man's land de judiciaire.
Non, on faisait juste te péter deux jambes.
Ben oui, on te pétait deux jambes. Mais là, qu'à cela ne tienne, Samuel de Champlain, lui, là, il a des principes. Il tient à ce que justice soit faite dans les règles de l'art. Alors,
parle-moi de ça, un homme de principe.
Ben, je sais.
Un homme drette.
Un homme drette comme un pont.
Yes.
Voilà. Ce que Samuel désire, c'est d'obtenir la haute justice avec des majuscules, la haute et la justice.
Donc, en caps lock.
Une condamnation à mort. Donc, pour ce faire, il doit respecter les procédures judiciaires françaises. Là, je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas grand-chose dans ce cas-là. Écoute, on est rendu là. Fait que là, la première étape s'appelle le récollement des témoins. Bon. Fait que là, chaque accusé est amené devant un groupe de témoins, qui est en fait un jury, pour répondre aux accusations qui pèsent contre eux. Fait que là, les accusés doivent faire une déposition écrite. Puis là, certains vont tenter, pendant ce processus, de détourner le blâme du complot vers d'autres gens.
Ah.
Dont le docteur Bonnerme, qui était un des meilleurs amis de Samuel de Champlain. Fait que là, les maudits,
ça va vraiment pas bien.
Ils sont allés là, puis on dit, mais c'est pas nous autres, c'est le meilleur chum à Samuel de Champlain qui voulait le faire tuer, puis c'était même pas vrai. Leur stratagème est vite démantelé. Bon. Alors, la deuxième procédure ensuite, parce que là, on a fait les premières dépositions, là, on veut faire ça comme faut, là, on va pas juste leur casser les jambes. Bon.
On est civilisé.
Ensuite, on va, ça s'appelle la confrontation, la deuxième étape. C'est comme ça, c'est self-explanatory, comme on dit. Fait que vous comprenez c'est quoi. Les accusés sont mis en présence des accusateurs. Fait que là, tous les méchants sont là. Puis là, Antoine Nantel, puis le capitaine Têtu, c'est eux les accusateurs. Fait que là, ils vont devant
nous.
Ils ont un 5, vous avez complété une bouteille, Samuel de Champlain. Et là, à cette étape, les accusés ont tous reconnu leur tort et imploré la clémence de la cour.
Pardon, mon oncle.
Ouais. Il n'était pas fait bien, bien fort, on dirait, parce qu'ils n'ont pas nié longtemps. Puis là, même Jean Duval a admis qu'il méritait la peine de mort pour sa tentative de comploter à assassiner quelqu'un.
Oui, c'était pas fin.
Non, mais c'est comme, ben, je sais
pas. Better use of your time, monsieur.
Bats-toi plus que ça, là. Je veux dire, fais un O.J. Simpson de toi-même, quelque chose, là.
Le gars, on ne fait pas...
Fait que là, après ça, le jury a délibéré pour en venir à une peine, parce que là, tout le monde avait admis leur culpabilité à ce stade-ci, qu'il y avait plus vraiment raison d'avoir un autre procès. Tout le monde était tellement... Si tous les criminels étaient honnêtes de même, hein?
Bon. Ce serait simple.
Fait que là, même si Samuel de Champlain, il a l'autorité de juste décider qu'il condamnait à mort tout le monde, parce que c'est lui qui est comme le king de la colonie, là, il préfère éviter tout soupçon de conflit d'intérêts et délègue ça à un jury qui est composé accidentellement de tous ses meilleurs amis, parce qu'il n'y a personne d'autre dans la colonie
ses
à ce stade-là.
Ses meilleurs amis qui ne veulent pas le poignarder d'en face.
Il y a Capitaine Têtu, qui était l'accusateur, se ramasse sur le jury, ce qui est comme pas mal de bon sens. Puis le docteur Bonnerme, qui s'est fait accuser d'être dans le complot, puis qui n'était pas dans le complot. Ben lui, avec, il est dans le jury. sont tous là, ainsi que quelques mariniers. Voilà. Oh. Et aussi un gars qui a un magnifique nom, qui est François Gravé Dupont.
Oh!
Oh!
Moi, j'aime ça, ça annonce le pont, là.
Oui, c'est exactement. Alors, le jury délibère et il en vient à un jugement. Je vous le cite à l'instant. « Nous décidâmes que ce serait assez de faire mourir ledit Duval comme le motif de l'entreprise et aussi pour servir d'exemple à ceux qui restaient de se comporter sagement à l'avenir en leur devoir et afin que les Espagnols et les Basques qui étaient en quantité au pays n'en fissent pas trophée. »
Okay, ils veulent le tuer. J'ai tout compris.
Mais je sais. Donc, il est condamné à mort, c'est okay. Ça que ça veut dire. Mais c'est juste lui. Puis dans le fond, je pense que son affaire de ne pas en faire trophée, c'est parce que c'est comme une peine exemplaire.
Ah, OK, OK, OK.
Fait que là, ils veulent montrer que c'est pas chill assassiner du monde.
Non, faites pas
voilà.
Ça.
Non,
c'est
ça. Alors, Jean Duval est condamné à mort. Ses trois acolytes sont condamnés à être renvoyés en France.
Retournez chez vous!
Bon.
Vous, François.
Ils sont shippés à un homme du nom de François du Gadémont. Et... François du Gadémont, c'est pas clair ce qu'il va faire avec eux, parce qu'il y a certaines sources qui disaient qu'il allait être envoyé aux galères, ce qui avait comme bien plus de bon sens, mais sinon, il était renvoyé pour être comme les esclaves à un gars qui s'appelait François du Gadémont.
On se partir un boys band.
Peut-être, hein? C'est peut-être ça. Alors, Antoine Nantel, lui, vu qu'il avait stoulé le complot, il a eu le droit de continuer à vivre dans la colonie de la Nouvelle-France, mais c'est peut-être le karma. Il est mort de la dysenterie la même année.
J'allais dire, et puis personne n'y a plus jamais dit de secret.
Ben, non, mais après ça, il est mort, parce que c'est ça. Ça, puis le scorbut, c'était les gros fléaux de l'époque.
Hein, ah oui.
Faut pas oublier de manger des oranges en vie. Alors, Jean Duval est prestement pendu, et en guise d'avertissement, on a tranché sa tête et on l'a placé sur un pic à l'entrée de la ville, comme Ned Stark dans Game of Thrones.
Wow!
Voilà. Alors, moi, je me demande...
Je m'attendais pas à ça.
qu'est-ce que HBO attend pour faire une mini-série sur cette tentative d'assassinat qui était absolument incroyable? Il me semble qu'il y aurait du cash à faire pour, je ne sais pas, rémunérer des artistes québécois à leur juste valeur.
Oui, là, il y a plein d'acteurs de District 31 qui n'ont plus de job.
Ben oui, c'est ça.
Let's go!
J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait donner le rôle de Samuel de Champlain à Gilda Roy? Moi, je serais d'accord avec ça. OK. Et c'est sur ce que je souhaite conclure mon cas. Fait qu'une chance, il y a eu un maudit stool qui est allé tout stooler cette histoire-là, puis aujourd'hui, on a le pont Samuel de Champlain.
Sinon, il aurait fallu nager pour aller à Longueuil.
Ça aurait été long puis plate.
Oh.
Voilà. Fait que tout est bien qui finit bien, puis il n'y a personne qui est mort. Y a-tu quelqu'un qui meurt dans ton histoire?
Of course.
Oh, yes sir, on pense à toi d'abord.
Merveilleux. Fait que, moi, je vais vous parler de Barbe Bleue de Cowansville. Ça aussi, c'est un petit peu off-brand, le cheval de Troie. On est le 8 février 1952. Mm. Le détective aux homicides de la Sûreté du Québec, Rock Dandenault. Il est appelé à se rendre à un domicile de Cowansville où est-ce que Norma Ford, 28 ans, elle a été retrouvée morte dans son bain par son mari, Kenneth Ford. Ford, 36 ans.
Oh mon Dieu!
Il respecte la règle du 7 ans,
c'est ce cas-là. Ah bon, OK, c'est correct dans ce cas-là, mauvais.
Sur place, Dandenault trouve un Kenneth Ford éploré et il l'envoie à l'hôpital se faire donner un calmant. Dans ce temps-là, tu faisais ça.
Oui.
Après avoir fait le tour du coquet bungalow de Ford, Dandenault questionne...
Le bungalow de 1850?
1950.
Ah, 1950, oh, excusez!
Ça commence à être moderne.
Oh,
il est tristé.
Okay, excusez! Il va être très coquet, la mélanine, puis tout ça, oui.
Dandenault va questionner les voisins qui disent aux policiers que le couple Ford était assez tranquille, ils n'ont jamais vu de chicane entre eux autres, mais il y a un voisin qui dit à Rock Dandenault qu'à peu près à 3 heures du matin, il a vu M. Ford se rendre à son incinérateur à l'extérieur pour y brûler un paquet.
Pourquoi il y avait un incinérateur?
Je sais pas, j'habite pas
Cowansville. C'est une affaire que le monde peut avoir chez eux, ça!
OK! Fait que Dandenault va ordonner à ce qu'on saisisse le contenu de l'incinérateur.
Avec raison.
Une fois de retour dans la demeure, un enquêteur va signaler à Dandenault une découverte fort intrigante. Le tapis situé près de l'escalier, qui va au deuxième étage, est trempé sur une surface d'environ 1,5 m. L'enquêteur conclut que le tapis a été lavé et essuyé peu de temps avant l'arrivée des policiers.
Est-ce que ça sent le bleach?
Je pense que oui.
Oh non!
Pendant l'autopsie de Norma, on va faire d'autres découvertes qui vont soulever les soupçons de Dandenault à l'égard du mari supposément éploré. La jeune femme elle a deux profondes incisions au-dessus de son oreille droite.
Ah!
Ses poumons sont remplis d'une eau rougeâtre.
Ah!
Et elle est enceinte de 6 mois.
Non! C'est un double assassinat!
Ben, en effet.
En effet.
Le lendemain, Dandenault va interroger pour la première fois Ford au sujet du décès de sa femme. Il lui demande de lui raconter des détails de la soirée qui ont précédé la découverte macabre. Ford va raconter à Dandenault que dans les heures qui ont précédé la mort de sa femme, il aurait quitté sa maison aux alentours de 20 heures pour aller patiner avec des jeunes femmes avec qui il travaillait à la Brooksilk Company.
Oh là là! Oh. Ça se fait pas, ça. Sa femme est enceinte de 6 mois.
Hey.
Bon.
Vers 11 heures, il serait allé au restaurant avec deux de celles-ci, manger des chicken wings. Un peu après minuit, en rentrant chez lui, il a croisé un bon ami à lui qui l'aurait invité à venir prendre une coupe de shooter. Fait que finalement, il rentre chez lui vers 2 heures du matin. Il était bien social, le monsieur. T'sais.
Il est à côté, son alibi. Là.
Hey. Okay. En arrivant à la maison, il constate que toutes les lumières sont allumées. Assumant que sa femme n'est pas encore couchée, il l'appelle, mais il n'obtient aucune réponse. Inquiet, il se précipite à l'étage pour la chercher dans leur chambre pour finalement la retrouver morte dans la baignoire. Paniqué, il appelle le pasteur. Dans ce temps-là, c'est ça que tu faisais?
Super pasteur!
Oui, super oui, Jésus!
Oui, oui. OK.
Le pasteur va se rendre chez lui puis lui dire d'appeler un médecin.
Mais...
Puis le médecin va dire « appelle la police
».
Ça a pris une couple de personnes à arriver à la bonne décision.
Mais...
Questionné sur le voisin qui l'a vu se rendre à son incinérateur dans les petites heures du matin, Kenneth Ford y affirme que oui, il est allé brûler des déchets pour se changer d'idée. Peu convaincu, Dandenault va demander à Ford « Où c'est que t'as rangé tes patins quand t'es revenu chez vous, toi, hier? »
Bonne question!
Hey!
Hein?
Et là, il va répondre « Ben, là, une place dans le garde-robe de l'entrée. » Mais quand il est parti, Dandenault, il a regardé dans le garde-robe, pas de patins.
Oh non, tout s'effondre comme un château de cartes.
De retour à Montréal, dans les bureaux de la SQ,
Oui.
Dans de nos se rend au laboratoire médico-légal où on l'informe que les cendres retrouvées dans l'incinérateur de la demeure Ford contiennent des fibres de lingerie de soie, des boutons qui proviendraient d'un pyjama et peut-être des pantoufles ou des sandales.
Oh non!
Oh, des Birkenstock!
Pourquoi qu'il brûle du linge? Qu'est-ce qui se passe?
Mais là, ce détail-là, il intéresse Dandenon parce que quand il a interrogé M. Ford la veille, M. Ford, il avait l'air d'avoir un pyjama neuf. Puis peut-être de la lingerie de soie neuve aussi, c'est une affaire à dire. Ensuite, on va remettre à Dandenon des photos qui ont été prises sur la scène du crime. Et là, il va y avoir des nouveaux détails pour M. Dandenon. Tout d'abord, si Norma Ford a glissé dans son bain, qu'elle s'est cognée la tête contre les poignées du robinet avant de tomber face première dans l'eau et de se noyer, pourquoi il n'y a pas de sang sur les murs? Ensuite, les entailles trouvées sur le crâne de Mme Ford sont à l'horizontale, mais les poignées du robinet, elles sont à la verticale.
Non!
Ça ne marche pas, là.
Peut-être que sa tête est de ce côté de main.
Tu sais, quand tu tombes vraiment mal.
Boink! C'est ça, oui.
Tchacasse!
Elle faisait du parkour.
Dans son bain.
Oui.
Décidée de faire admettre à Ford ce qui s'est réellement passé le soir de la mort de sa femme, Dandenon va retourner à Cowansville, où il va avoir une conversation assez intéressante avec un policier de la place, parce que apparemment, pendant qu'il faisait des fouilles, Ford s'est rendu au poste de police pour offrir sa verrerie en cadeau au policier qui travaillait.
Ah! OK.
Dandenon, il n'est pas dupe. Il s'en doute que M. Ford essaye d'acheter la police de Cowansville avec ses bols à bonbons.
Ben voyons donc.
Dandenon va décider de profiter de l'absence de Ford pour faire venir de Montréal un expert médico-légal pour analyser le bout de tapis.
Oh non!
Dandenon, il a vu juste le tapis. Il y avait du sang humain dedans.
Oh non!
Au moment de fouiller dans le passé de Kenneth Ford, Dandenon va apprendre plusieurs choses assez troublantes. Tout d'abord, Ford est né dans l'État du Vermont!
Oh non, un maudit aberrant qui vote pour Bernie Sanders! Ah! Wesh!
Là, il s'est lié à une jeune fille de 18 ans qui serait morte noyée pendant un voyage de pêche avec Ford.
Oh
tu sais, c'est plate un voyage de pêche en plus quand tu meurs.
Ben là, mais hein, comme bête puis répète.
Quelques années plus tard, à Richford, toujours au Vermont, Ford va vivre en concubinage avec une jeune femme qui serait morte en tombant dans la cave de leur maison.
Ah! Hey. Comme dans The Staircase.
C'est pour ça qu'il faut allumer les lumières.
C'est pas un hibou qui avait fait ça.
Ouais.
Oui.
Ford va ensuite déménager à Knowlton, dans les cantons de l'Est.
À Bolton?
Knowlton.
À Knowlton?
Oui.
Oh, yes. Okay.
Oui, c'est la ville des gens qui savent. Knowlton.
Knowlton, c'est pas la ville du spa.
Non.
Non, il était pas relaxé, non. Pantoute.
Il est pas allé à Ismail.
Non.
Il va vivre avec une autre femme qui va décéder quelques mois plus tard dans un accident de voiture.
Oui, il est bien malchanceux, qu'est-ce que c'est ça?
Oui, ça va pas bien, là.
Il est pire que Babine dans le
Arrête de cliquer des papiers, là.
Ben oui.
Dandenon va ensuite vérifier les rapports d'autopsie de chacune de ces femmes et il va découvrir un détail assez suspect. Elles étaient toutes enceintes au moment de leur mort.
Mon Dieu, c'est dangereux, elle est enceinte, on dirait.
Oui. Troublé, Dandenon se rend à la Brooksville Company pour interroger le patron de Ford.
Ouais.
Il va confirmer que Ford travaille là depuis 5 ans comme contremaître et il va le décrire comme un employé modèle, ponctuel et efficace. Un petit détail cependant, il aurait harcelé une couple de femmes puis il en aurait même menacé une de se faire perdre sa job si elle voulait pas coucher avec lui au moins une fois par semaine.
Ah!
Un petit détail!
Un employé modèle!
Voilà! Lorsqu'il l'aurait confronté à ce sujet, Ford, il a tout nié. Puis le patron, il a pris la chose en main. Il a transféré la maudite fatigante hystérique à un autre département pour que Ford puisse continuer d'être un employé modèle.
Oh, mais ça règle le problème!
Ben voilà! Plus de chiolage!
Bon.
Par la suite, Dandenon questionne le médecin de Norma Ford, qui déclare qu'il était clair que M. Ford, il voulait pas être papa. Apparemment, il disait que c'était pas lui le père de l'enfant, puis il a même accusé le médecin d'avoir couché avec sa femme.
L'excuse facile.
Hey! Il serait même allé à la rencontre du médecin pour tenter de le persuader de pratiquer un avortement sur sa femme.
Non, mais ça, c'était illégal!
C'était illégal!
Non, mais ça se faisait pas ça!
Okay. Celui-ci a toutefois refusé parce qu'il était clair que Norma, elle voulait son petit bobé.
Ah ben, okay.
Ford aurait alors tenté de puncher le médecin d'en face. Quelques jours plus tard, Norma serait allée toute seule chez son médecin en pleurs et elle lui aurait dit qu'elle avait très peur de son mari.
Ben oui, je me demande pourquoi.
Hey.
Au fil de son... tellement chill!
Et pendant son enquête, Dandenon, Il va aussi se faire offrir beaucoup de pots de vin par Ford, par exemple sa coutellerie, son argenterie, son service à thé.
Mais ça, il tentait pas de l'argent dans une enveloppe brune, là, me semble que...
Il va même se rendre chez des jurés pour leur offrir des meubles, des électroménagers, des vêtements, des articles de sport. Il disait qu'il s'en allait en Californie et qu'il voulait pas apporter trop de valises. Il voulait voyager léger.
Ben voyons, t'es-tu sérieuse?
Oui, oui.
Ben voyons donc!
Il voulait prendre un Greyhound. Il voulait pas payer l'extra pour les bagages.
Voulez-vous mon sofa?
Tu veux-tu mon sofa? J'ai quasiment pas pété dessus.
J'ai une table basse.
Finalement, c'est lorsqu'on va le soumettre au détecteur de mensonges que Ford admet avoir tué sa femme, Norma. Il signe une déclaration et le lendemain, les policiers de Quantville vont retrouver les fameux patins sous la galerie du voisin. Au terme de l'enquête menée par le coroner, il est déterminé que Ford a frappé Norma à la tête avec ses patins.
Non!
Ce qui explique les entailles à l'horizontale au-dessus de son oreille.
OK!
Et ensuite, il l'a mis dans son bain pour trafiquer sa mort. Détenu à la prison de Bordeaux en attente de son procès, Ford va tenter de s'enlever la vie en se coupant les veines avec une bouteille brisée. On va y sauver la vie et à son procès, Ford jure qu'il avait vraiment hâte d'être un papa puis de chanter des berceuses puis de changer des couches. Et que c'est les agents de la SQ qui auraient été méchants avec lui et qui l'auraient forcé de faire une déclaration. Puis là, s'il y en a qui ont écouté notre épisode de Charles Marion, ils sont comme « Moi, la SQ, des fois, c'est des cow-boys, hein? » Mais le supérieur de Dandeneau, es-tu prête pour un beau nom?
Oui.
Ubald Legault.
Hubert de Legault.
Ubald.
Ubald!
Ubald.
Ubald. Ça, c'est mieux que François de Garde-Dupont, ouais. Là.
Il était présent au moment de la rédaction, puis lui, il confirme que la déclaration de Ford a s'est faite bien sweet, tout était bien tigadou, là, là, puis il y a même des témoins qui
le trouvent. Il n'y avait pas de bottin de téléphone dans la pièce.
Non, il n'y avait aucun bottin de téléphone. Les bottins de téléphone étaient interdits.
Non.
Alors, il va se faire de 2 heures pour que le jury déclare Ford coupable d'avoir tué sa femme.
C'était
comme clair. Même s'il y avait comme toute sa verrerie, il était comme « Merci pour tes couteaux, mais va-t'en en prison. »
Je sais pas combien de temps qu'il pensait faire ça encore. Il en avait tué comme 3-4 jusqu'à là.
Toutes les femmes. C'est comme Leonardo DiCaprio, mais comme avec des femmes enceintes.
Mais comme il est tué au lieu de les laisser.
Et quand il va se faire amener par les agents de la SQ, Ford va cracher d'en face à Dandeneau.
Oh,
ça, c'est dramatique!
Là, tu sais que le policier, il a bien fait sa job, qu'est-ce qu'il s'est craché dessus de même? Oh.
Quelques mois plus tard, le vendredi 4 décembre 1953, Ford va être pendu à la prison de Bordeaux de Montréal. Selon les archives de la prison, la corde était trop longue puis ça a pris 13 minutes pour qu'il meure étouffé.
Ah! Qui était à peu près à la longueur que ça t'a pris pour lire ce texte.
Hey!
Et voilà!
Fait que l'on a le temps pour...
Oui.
Les 2 minutes de Babine!
Mon Dieu, mais il y a quelqu'un qui...
La personne qui s'occupe du PowerPoint!
Ben oui. Il nous reste une couple de minutes.
On va pas faire
un masque de job. On peut l'expliquer. Fait que nous, à chaque épisode, pour finir, parce qu'on raconte des affaires stressantes, on vous raconte des affaires qui sont liées à District 31, parce que ça, c'est pas stressant. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire un top 5, c'est plus que 5, des plus beaux outfits.
5.5.
Des plus beaux outfits des comédiens de District 31. Fait que le PowerPoint va commencer bientôt. Ah! Je peux recommencer à chanter ma chanson de cirque.
On va faire la chanson de District 31. District 31 Fashion Week, les moments les plus fashion de District 31.
Puis là, c'est un média audio, fait qu'on n'avait pas pensé à notre affaire. Fait qu'il va falloir qu'on
décrive.
Bon, voilà.
Alors, on peut passer à la première slide. Le beau manteau à Véronique Lenoir.
Oui.
Pour quand tu veux te déguiser en trophée MTV.
Oui. Ou en bonhomme Michelin qu'on a dippé dans de la peinture dorée.
Voilà.
C'est beau!
Mais là, prochaine slide. Je suis vraiment triste de vous annoncer qu'il est sold out chez Autre Infrou.
Oh.
Si vous aviez un petit 1 500 $ de côté, je suis
mais il était déjà pas disponible en doré. Il était juste disponible en aluminium comme pour aller dans l'espace.
Pour être été, peut-être.
Exactement. Peut-être au four.
Mais si vous voulez rester au chaud, inquiétez-vous pas, parce que next slide, Noélie est le plus beau col roulé du monde.
Qui a l'air d'être faite en laine d'acier. C'est aussi un col roulé qui te monte jusqu'en dessous des oreilles puis qui est un crop top. Fait qu'il faut pas que t'ailles comme frette au nombril, tu sais. Fait que tes pantalons doivent être hauts. Puis ta tête, elle peut pas bouger beaucoup parce que c'est parfait pour cacher ton collet chirurgical. Aussi.
Mais c'est parfait pour des soirées échangistes pendant la COVID parce aussi? Que tu caches ton nez puis ta bouche, mais tu peux montrer tes tontons.
Voilà!
Hey!
C'est
on pense
ça
à tout.
Qui se passait dans cette scène-là, finalement. On a tout compris.
Alors, next slide. La coupe de cheveux autoroute meets décapotable.
C'est pas facile d'être toujours bien coiffé au district 31, surtout quand tu
viens. Parce
qu'il
s'en passe des affaires. Il y a plein de monde qui rentre puis qui sort, fait qu'il y a bien des coups de vent.
Voilà.
Pis ça, je pense que c'est un life lesson pour Pascal, mon petit. Envoie pas chier ta maquilleuse avant d'aller t'asseoir dans la chaise.
Non, c'est ça. Puis aussi, mets pas tes doigts dans les prises électriques. Ça se peut que ça vire mal.
Mais c'est pas la meilleure coupe de cheveux qu'on ait eu dans
non,
le district 31.
Ben non, on en a une préférée, mais non. Autres.
Next slide. La coupe de cheveux Duran Duran meets Patrick Swayze.
Vous pensiez que les années 80 étaient terminées? Non.
Non. Sébastien Delorme a décidé que ça commençait right now.
Au début de la saison 4.
Et voilà. Puis là, ça, c'est l'affaire que je comprends pas, parce que la saison 4, elle a commencé en 2019. Fait que c'est avant la pandémie, avant que les salons de coiffure, ils ferment.
Ouais.
Fait que Sébastien Delorme avait aucune excuse.
Non, non, c'est intentionnel, c'est
il
ça.
Il fallait se faire couper les cheveux quand ça y tentait. Oui. Mais non, il a regardé Dirty Dancing.
Oui.
Puis il a décidé, ça, c'est mon look.
Ça, c'est mon jam.
Parce qu'après, il y avait toujours juste un bouton like plus d'ouvert en plus.
Aussi, oui.
C'est comme, voici mon chest viril.
Oui.
Puis en plus, sur la deuxième photo, on dirait qu'il dit à Carl Le Quatre-Charret, tu me trouves-tu beau? C'est un nouveau style. Je suis un nouveau divorcé, tu sais. Je retourne sur le dating scene.
Je m'en vais dans des discothèques.
Je vais aller dans les discothèques.
Yes.
Mais là, on ne va pas tout de suite aller à la position numéro un. On a un bonus. Ouais. Next slide. La fois que Poupou puis Babine ont oublié de se coordonner.
Ah, oh, j'avais oublié celle-là. Fait que oui, on voit que aussi porter un col roulé en dessous d'un veston, c'est bien, bien à la mode.
C'est bien à la mode, les deux. Ils étaient comme « Oh my God, oh my God, oh my God ». C'est pour ça qu'il faut que tu communiques avec ta BFF avant d'aller au bar. Sinon, c'est ça qui arrive. Vous êtes habillés pareil.
Ouais, malheureusement.
Mais là, on est prêts.
Oui.
En position numéro un.
Oui.
Mesdames, attention à vos babettes. Messieurs aussi, messieurs aussi. Attention à vos babettes. Next slide. Agent 00 Babine.
Fait qu'il y a une saison au complet de District 31 où le personnage de Patrick Bissonnette porte juste des cols roulés. C'est comme s'il était rentré chez Simons, puis il a trouvé une coupe qu'il aimait, puis il a acheté toutes les couleurs.
Donne-moi les toutes.
Il y avait un noir, puis un beige, puis un vert, puis un bleu, toute la gang.
Puis là, comme vous voyez, quand vous parlez au téléphone, ça vous donne beaucoup de gravitas.
Yeah! On dirait qu'il se prend pour OSS-117.
Ou le capitaine Haddock.
Ou le capitaine Haddock, c'est vrai! Il n'y a pas assez de barbe.
J'avoue. Yeah. Fait que voilà, c'était le défilé de mode de District 31.
Voilà.
On espère que vous avez aimé ça.
Oui.
Hey, vous êtes beaux. Les acteurs de District 31 vous aiment.
Oui. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Malgré les problèmes techniques, on a réussi à faire ça très short and sweet.
Ah
oui? Ah ah! Ben oui, il est moins court.
Ah
ah! Fait que là, pour 5 minutes, on va rester assis ici puis vous regarder.
On va faire bon!
Voilà. Mais sinon, on va être à notre table à l'entrée. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ben sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café, sur Facebook, @unpeudecrime. Envoyez-nous des courriels, unpeudecrime@gmail.com.
Oui, on aime ça vous lire.
On lance un épisode aux 2 semaines. On en a lancé un aujourd'hui. Fait que ça va aller dans 2 semaines.
Oui.
Ou est-ce qu'on va parler des nazis?
Des nazis
à l'île d'Anticosti. À l'île d'Anticosti.
Écoute. Bon, avec merci encore.
Merci.
Let's go. Wow.
Super. Discount partner.
Yes, discount mon chum.